va résumer un peu ce qui s'est passé. Donc bon, j'assume, hein. Ok, j'assume. Donc ce podcast, donc bonjour, je m'appelle François Descraques. Je suis quelqu'un qui ne sait pas appuyer deux fois sur REC pour lancer l'enregistrement sur l'enregistrement numérique. Donc on a eu une très bonne conversation avec la Finance
Company. C'était très sympa.
Ouais. C'était très sympa, on a dit des trucs très drôles.
Bon, bah, la prochaine fois, François.
Voilà, bah, écoutez, merci.
Voilà. C'était très sympa.
Voilà. Donc on recommence le podcast. Je me sens tellement con. Je suis François Descraques, je suis avec Rudy Pomared et Simon de la Flanders Company. Simon Brochard, donc, merci d'être venu, merci d'avoir parlé pendant au moins 10 minutes déjà. Et,
voilà. On était chaud. Hein.
On était chaud. Hein.
Ah ouais.
Et des révélations, je vous dis que ça.
Bon, donc on va essayer de, comme tu dis, hein, de rendre ça plus concis. Donc je voulais parler donc, du fait que, oh, putain, c'est tellement dur de se remettre dedans, désolé. Hein. Donc, à la base, donc, la Flanders Company, ça a commencé sur la chaîne No Life, mais bien avant ça, il y avait le groupe, donc les Guardians, qui produit toujours la Flanders Company.
Oui, le nom est toujours là, oui.
Et qui, en fait, a commencé par tes premiers courts-métrages, qui est devenu en fait, une série, à savoir Damned. Mm. Et voilà, donc ça, c'était il y a plus de 10 ans.
Ouais, il y a 13 ans, hein, c'était 1990, je m'en souviens parce que c'est la Coupe du Monde. Quand nous, on n'aime pas le foot dans la famille, bah, plutôt que de regarder les matchs à la télé, on prenait le caméscope de papa-maman, on allait dans la garrigue et puis on commençait à filmer. Quoi. Et c'est là qu'on a fait le premier Damned. Ça correspondait à. Pour mettre un peu dans le bain, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs, je crois, qui sont pas nés avant les années 2000.
Bah voilà, quoi.
Quel siècle dernier.
Quelles étaient les contraintes techniques de l'époque?
Je veux dire, c'était les ordinateurs, les premiers Pentium venaient de sortir. Pour avoir Internet, on avait encore des modems 56K.
Qui faisaient des bruits de fou.
Certains utilisaient encore le Minitel.
Voilà. Et certains utilisaient encore le Minitel.
Là, je dis, on savait pas ce que c'était. Le DVD, on découvrait à peine. Alors, le Blu-ray, je vous en parle pas.
On regardait nos films sur VHS. Hein.
Ouais.
Que la VHS. Mais la console Next Gen, c'était la Game Boy. Hein.
Mais surtout, quand on faisait des films à cette époque-là, c'est d'autant plus difficile parce qu'il fallait faire ça sur des supports qu'on dit analogiques, donc pas numériques, donc des bandes VHS. Mm-hmm. Et après, le montage, c'était par magnétoscope interposé. Il fallait faire le montage pratiquement en direct parce que si tu te plantais, tu ne pouvais pas revenir en arrière.
Mais c'était Au début, je pratiquais le filmer monté.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que. Du moment où j'appuie sur la caméra, la borne enregistrée et le film était déjà tout pris. On faisait déjà des espèces de parodies Dragon Ball, donc c'était très particulier. C'est très particulier, j'ai encore ces bandes quelque part.
Ah oui, je les ai vues. Une
mouche.
Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a toujours, on a l'impression qu'il y a un premier film, c'est jamais le premier.
Hein. Non,
il y a toujours des antécédents.
Ah, si on remonte. Hein.
Mais bon, on va dire, le premier film qui a lancé, on va dire, la série. Damned, donc le premier Damned, après a permis de faire donc parce que moi j'avais vu donc le premier Damned et c'était même pas les mêmes comédiens en plus,
c'est comment dire, l'équipe elle a suivi mes déplacements géographiques. Quand on a fait le premier Damned, c'est vraiment
Perpignan.
La famille, Perpignan, les amis de Perpignan, mon meilleur pote Sébastien, mon frangin Jean, deux trois personnes autour. Et après, moi j'ai dû bouger pour les études, je suis parti à Grenoble. Et comme je faisais une école d'ingénieur, donc tu fourrais dans les écoles d'ingénieurs, plutôt que d'apprendre mes cours de merde, hein, j'avais monté un club vidéo et j'avais essayé de reconstituer une équipe pour tourner. Et c'est à cette époque-là où quelqu'un m'a contacté sur Internet, sur mon mail caramel.
C'était sur le mail chat caramel.
Sur le mail chat caramel.
Facebook de l'époque.
Qui s'appelait Nicolas Romain, mais qui m'écrivait sous le pseudo d'Atomique Schizo. Qui me disait, oh, c'est génial ton site sur Club Internet. C'est vraiment très rétro. Tu places plein de marques hyper rétro qui n'existent plus. Tu peux même pas avoir de problème avec le CSA, c'est génial. Donc Nicolas Romain m'a contacté en me disant, c'est super ce que tu as mis sur ton site, là, les petits combats, etc. Il faudrait que tu participes à un truc qui s'appelle Cartooniste et qui a lieu tous les ans à Toulon. Il y a plein de gens comme toi qui font des films à caractère un peu manga, baston, jeux
voilà,
vidéo.
Cartooniste, le parodique. L'ancêtre du Japan Expo.
Voilà, c'était pour c'était donc un festival sur la Japanimation et toute la culture qui allait autour. Le premier de cette envergure-là et qui avait lieu historiquement à Toulon. Mm. Et voilà, moi j'ai dit que on m'a contacté comme ça. Je connaissais pas.
Alors, juste une petite parenthèse, Nicolas Robin, donc alias Schizo, qui maintenant travaille pour No Life et écrit, réalise des émissions qui sont...
Oui, qu'on a qui a tourné avec nous plusieurs fois.
Voilà, donc quelqu'un qui... de très longue date.
Ah, ça, je ne savais pas que ça venait de... ça vient de là. C'est lui qui m'a introduit dans le système quelque part. Et donc voilà Grenoble en train de filmer un film, la suite de Damned, comme ça, pour ce festival, sans savoir où on foutait les pieds. Et évidemment, quand j'y suis allé, on a rencontré plein de gens.
Donc tu as rencontré Simon, qui à l'époque avait son propre groupe... de films amateurs slash super-héros.
C'est ça, Capri Fighters, ensuite à Toulon. Et puis c'est pareil, on va rencontrer Ruzi, via Nicolas Robin Schizo, sur les chats de Caramel, on avait un peu commencé à discuter. Et donc à l'époque, ça faisait depuis un an, deux ans, que Cartoonist, les différents groupes qui faisaient des vidéos de ce type-là. Donc manga, japanime, jeux vidéo, il y en avait sur Nice et Bitoman, donc Atomic. À Bordeaux, il y avait un projet qui montait un peu plus tard, France 5 sur Paris, bref, il y avait
pas mal de France groupes. 5, ouais, donc deux Alex Pilote.
Tout à fait, avec les Beatomans, c'est Alex Pilote aussi également, qui est le premier d'ailleurs film parodie manga qui a eu une diffusion à un moment donné. Et donc Cartoonist offrait une plateforme de diffusion dans la grande salle. Et donc il y avait des
centres. Une salle de combien de personnes?
900 personnes.
C'est ça qui est hallucinant. Ouais. C'est ça qui.
C'est gros en film.
C'était n'importe quoi.
Pas des congrès, c'est assez génial.
C'était n'importe quoi. Je veux dire, on n'avait aucun public. Moi, je suis arrivé avec une cassette. Par moi, des potes, personne n'avait vu. Quoi. Et tu arrives là-bas en te disant, ça va être un garage à tout moment, on va y avoir 10 pelés. D'ailleurs, les 10 personnes qui viennent présenter leur film seront là et puis basta. Quoi. Tu te retrouves devant un festival qui faisait combien de
25 000 personnes.
25 000 personnes qui débarquaient. Quoi. Tu vois le machin, tu vois les stands, tu dis, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce machin quoi. Tu débarques dans ta province, tu te dis, mais ça existe en fait, en vrai. Et on te dit, voilà où va être diffusé ton film en VHS que tu as livré en VHS, n'est-ce pas?
Sur un écran immense.
Au mieux en bêta, mais
en VHS. Avec Alex qui bossait avec Game One qui avait des bêtas. Nous, c'était VHS à tous.
C'est clair.
Et tu t'arrives, tu as ta VHS dans la main, et tu arrives dans un amphi, il y a 900 places, un écran géant de cinéma. Tu regardes, tu fais, c'est pas possible, on va pas projeter un magnétoscope là-dessus, quoi.
Si.
Mais c'est ça que je trouve génial, c'est que, disons que. Moi, j'ai fait donc des courts-métrages après mon BTS et c'était la consécration d'arriver à diffuser son film dans un festival. Et quand tu vas au festival, tu as littéralement 50 personnes qui remplissent une salle de 50 places, quoi. Mmh. Et ton film est diffusé là. Et dans la salle, c'est que les gens qui ont fait les autres films. Et donc, au final, pendant longtemps, les festivals, enfin, on dirait ça, tu pars de ça, c'est que tu as des festivals entre guillemets avec un fond un peu professionnel, où il n'y a jamais de public. Et là, Cartoonist réunissait vraiment plein de gens intéressés et laissait, on va dire, un espace de projection à des amateurs. Et c'est ça qui a créé un peu cette émulation, le côté, putain, on peut faire un truc bien et sans prétention. Quoi.
C'est parce qu'en fait, sur Cartoonist, ce n'est pas un festival de cinéma.
Voilà.
Finalement, le festival que tu cites, j'en ai connu quelques-uns. Et non, ils ont leur public. C'est des festivals qui ne s'adressent qu'aux auteurs.
Voilà,
venez, retrouvez-vous entre vous, faites une petite compétition, mais c'est pas que c'est vers les gens. Bien entendu, ils aimeraient qu'il y ait des gens dans les salles, mais elles sont vides. Parce que finalement, c'est pas eux leur cible, la cible. Là, sur Cartoonist, on était des fans d'animation, de jeux vidéo, etc., qui avaient fait un film en hommage à nos passions, quelque part. C'était ça, on peut dire complètement.
Hein. C'est l'envie de mettre en image des situations amusantes avec les personnages qu'on pouvait bien aimer dans les séries, côté rend parodique.
Parodie, hommage, les deux.
Mais attention, quand même, je prends juste un petite nuance. Sur les festivals, il y en a certains qui drainent quand même beaucoup de monde en termes de public, hormis des festivals comme cela, genre le festival de Clermont-Ferrand, par exemple.
Oui, mais non, voilà. Non, mais il y a beaucoup de festivals.
Donc il y a, non, pour dire qu'il y a deux.
Je pense qu'en fait, François parlait des festivals à un moment où tu avais soit des amateurs, soit des étudiants qui
faisaient plutôt le festival de trucs d'étudiants.
Ça a évolué.
Mais là, ce qui change en fait, c'est pas festival au sens qu'on peut l'entendre, c'est festival côté festif.
Voilà,
c'est exactement. C'est Cartoonist ou plus tard les Japan Expo.
Ouais.
Ce qu'on retient, c'est ça, c'est des gens qui ont une passion réelle, qui consomment tous les jours produits culturels, mais qui dérivent après sur plein d'autres activités, qui se réunit une fois par an dans le sud en avril. Et donc du coup, ça drive vachement de monde qui attendent ça depuis des mois. Donc il y a une espèce d'attente d'expectation et d'ambiance qui est unique en fait,
c'est vrai que ça a été créé, mais en fait pourquoi ça a marché, parce que voilà, on était des fans de ces gens là qui ont fait notre hommage et on le proposait à d'autres fans de partager ce truc-là. Et donc forcément il y a une espèce d'émulation qui ont fonctionné, parce que les gens ils ont vu à l'écran ce qu'ils auraient pu faire eux aussi, voilà. Quoi.
Bah, voilà. Mais moi ce que j'ai toujours trouvé génial dans Damned et aussi le Capoeira Fighter, c'était que même si c'était très parodique de plein de trucs, il y avait quand même un univers qui se créait. Alors peut-être plus dans Damned où il y avait vraiment un univers un peu plus... En même temps, Super Tatan n'était pas un héros forcément préexistant, non ? Si ?
Non, mais bon, c'était pas le but de créer vraiment une histoire qui
suit. Oui, mais même ça, cette volonté de passer outre la simple parodie, de dire ok, on va pas juste se déliser en Son Goku, tu vois, on va essayer d'incorporer des éléments qui se suivent, etc., et créer sa propre mythologie, il faut le faire. C'est-à-dire que c'est une démarche, oui. Et tu te dis, bon, on prétend un peu plus, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans Damned, même si moi, j'ai surtout appris à connaître les Capoeira Fighters lors de la parodie que tu avais fait, le Damned Fighter, là.
Oui,
c'est rigolo.
C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à connaître. Mais
bref. C'était mon cadeau d'anniversaire.
C'est ton cadeau d'anniversaire.
Je peux te dire que j'ai beaucoup rigolé.
Donc, c'était un épisode où toi, tu faisais le rôle donc, de Rudy.
Oui, voilà, c'est le principe. Comme démarche de base de Capoeira, c'était prendre plein d'univers dans le manga judo qu'on aimait bien et en faire n'importe quoi, faire une parodie. On a fait la même chose pour faire une surprise à Rudy, donc sur Damned.
Réussi.
Alors après, voilà, le principe, c'est qu'on avait bossé plus ou moins ensemble les deux équipes, il y avait eu quelque chose qui s'est mal passé, on avait changé les corps, quoi, donc... CG dans Corse Piatadan, etc.
Donc j'avais la joie de voir mes personnages, mon univers mis à mal, vannés dans tous les sens.
C'est un cadeau, on a fait quand même le côté parodie, autant mettre en place des situations qui ont des personnages, mais aussi parodier certains côtés.
Ils m'ont parodié complètement.
Voilà. Et la vanne dedans, mais la vanne rigolote et bien intentionnée. Mais
oui, voilà, privé du joke. Parfois,
il y a des gros privés de joke, bien sûr.
Gros privé du joke. C'était un bonheur.
Donc ça, c'était à l'époque, donc tout à fait Damned 2, 3, 4. Donc là, ça marque la fin de la première saison de Damned,
ouais, tout à fait, ouais.
Avec un changement d'équipe, etc.
Et de lieu géographique.
Et de lieu géographique aussi, puisque...
Je sais pas qui déménage.
Ouais, c'est ça. Je fais le vide.
Mais c'est ça donc on en parlait tout à l'heure et tout, c'est que les séries amateurs et aussi maintenant ce qu'on appelle les web-séries, finalement, c'est une continuité des séries amateurs. C'est des trucs que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est intimement lié à la vie privée ou la vie professionnelle des gens qui la font. Et donc forcément, Damned a changé d'équipe, a changé de lieu pour des problèmes liés à ton travail, etc.
J'ai passé du statut étudiant à statut d'étudiant bis.
Mais à Paris.
Mais à Paris, voilà.
Voilà. Et donc ça, je trouve intéressant, c'est que Damned, la deuxième saison, tu changes littéralement, on va dire, c'est dans la continuité, mais tu rebootes un peu ta propre série tout en étant dans la continuité, chose que je connais aussi. Mm-hmm. Et donc tu fais Damned Next, voilà. Mm-hmm. Pendant alors il y a eu combien d'épisodes de Damned Next?
5 on a pris on a un peu une numérotation de polio,
sauf que la différence c'est que avant No Life, dans ces épisodes là tous les films amateurs, pas tous, mais globalement, ils duraient environ entre 20 et 40 minutes.
Voilà.
Et il y en avait pratiquement un par an.
Voilà, c'est ça, on en faisait ça. C'était notre fin annuel. Ouais.
Voilà. Donc c'était une.
C'était les Pâques, Noël. Et
généralement, qu'on faisait l'été, parce qu'on était majoritairement étudiants, donc on avait des vacances. Voilà. Et on pouvait bien trouver 2 semaines sur les 2 mois de vacances scolaires pour tourner quelque chose.
Donc toi, tu as rejoint Damned Next, tu as fait, je crois, 3 personnages ou 2.
En fait, première fois que je suis en Damned, c'est dans Damned 3.
Ouais, donc là,
tu faisais le vampire. L'année, effectivement, on s'est rencontré avec Rudy et d'autres personnes comme Fred.
Le vampire. Edouard Montreban, hein.
D'accord.
Et c'était ça, c'était le prénom qui s'était choisi pour son personnage.
Exactement. Donc il y avait le 3 et le 4 comme ça.
D'ailleurs, vous apparaissez dans la Flanders Company,
oui.
Dans Damned.
Damned 3.
Oui, dans le dernier Damned.
Il y a Clémence qui fait Sylvie, Fred qui fait Hippolyte.
Dans Damned 3.
Damned 3, oui. Le premier rôle de Simon.
Oui, c'est Armand,
c'est le chef
et
du service de sécurité de la Flanders Company.
Et c'est une société qui s'occupe des intérêts de démons.
Putain, mais oui, c'est vrai
qu'il y avait la Flanders Company. C'est un Blow Your Man.
Mais là, ça y est, là, j'ai
plus le nom de la série revient de ce truc, de cette espèce, parce que finalement, il était là, le prototype de la Flanders Company, tenant Damned. quelque part. C'est une société qui devait... Alors, c'était un peu plus biblique, hein, à deux balles, quoi. C'est une société secrète qui s'occupait de la réinsertion des morts-vivants supérieurs dans la société, c'est ça ?
Ça, et gérer les intérêts des démons, voilà. C'est
en fait, en gros, je veux dire, de Damned...
C'est plus ange versus démon.
Voilà, c'est vraiment...
Le cadre de la série, c'est pas trop super-héros, c'est le côté...
C'est le côté un peu plutôt ésotérique.
Exactement, un peu la Buffy, quoi, dans l'approche. Parfois comme Charme, mais rarement.
Sans les boobs. Sans les boobs de Sarah Michelle Gellar, quand même.
Bon, on en avait quelques-uns, quand même. Ouais. C'est vache pour nos comédiennes.
Non, Nathalie, excuse-moi.
Vu qu'on avait passé, et Lohan et Clem.
Mais il y avait déjà donc, ce côté mythologie, comment dire, inspiré de plein de choses, mais au final, original.
La base était vraiment originale. Dans Damned Again, on avait fait des parodies, puisque justement c'était le thème du festival, donc on l'avait fait pour le festival. Dans le 3, on a fait parodie entièrement assumée parce qu'on avait trouvé le festival tellement génial qu'on s'est dit, maintenant qu'on a vu ce que c'était en fait, ce que les gens attendaient, enfin, parce qu'on avait vu les autres productions, on avait vu ce que les gens faisaient, c'était complètement barré. Moi je m'étais dit, je vais jouer le jeu, voilà, on va jouer le jeu à 100%, on fait un épisode.
Donc il y avait un générique à la Cowboy Bebop.
Voilà, j'avais repris plan par plan le générique de Cowboy Bebop.
Il y avait les Sailor Moon.
Il y avait plein de références de Sailor Moon, donc voilà, on était déjà très méchants avec les gens. Les Sailor Moon, il y avait Link, il y avait qui d'autre ?
Il y avait Pikachu à la fin.
À la fin, voilà, donc on avait bien intégré certains trucs.
Et donc le Damned 4, le dernier. Qui, je sais, toi, n'est pas ton préféré, mais qui, moi, m'avait, comme tu dis, Simon, ça avait blow my mind, parce que vraiment, cet épisode, je trouvais vraiment épique, à plein de niveaux, même s'il était très frustrant, je sais, au niveau du tournage.
Il avait été fait pour être un peu épique, c'est la partie de ma carrière, entre guillemets, où ça a été, mais en fait, peut-être que je peux faire quelque chose de plus sérieux, tu vois. Bon. Que je regrette pas forcément, mais parce que c'était à faire, je pense, pour évoluer ensuite. C'était un épisode très particulier, quoi.
Mais qui a fait un peu la transition avec Damned Next ou...
À l'époque même, quand je l'ai fait, c'était... Alors oui, pour remettre dans le contexte, en fait, il y a une grosse brouille interne, en fait, où il y avait les deux personnes qui jouaient avec moi sur Grenoble, qui faisaient les acteurs avec moi, avaient détourné le principe de la série qui m'appartenait en fait pour faire une espèce de spin-off dans lequel où j'avais eu pas mon mot à dire, j'étais mis devant le fait accompli et m'imposer le fait en disant voilà, nous aussi maintenant on a envie de tirer un peu la couverture à nous, donc voilà, on a fait un spin-off de Damned, on te demande pas un avis, de toute façon si tu fais chier on quitte la série. Donc j'étais en plein Damned 4 et ça m'était tombé sur le bout du crâne, donc ça a été très particulier. J'ai réussi à jouer fine de façon à terminer Damned 4 sans qu'ils s'en rendent compte, en fait. C'est-à-dire en modifiant certaines scènes, etc.
Puis à la fin de Damned 4, spoiler, pratiquement...
Oui, il y a une bonne... Normalement, voilà, toute l'équipe
meurt. Tout le monde meurt.
On a un beau
locaux. Sauf deux personnages, on va dire. Deux personnages.
C'est plus que deux personnages.
Mais c'est ça qui a permis donc de rebooter un peu la série.
Moi, j'ai bien aimé ce tournage de Damned 4, par contre. On le ressent très différent. Parce que c'est l'épisode où, en fait, pour me vaincre, Lohan me montre ses seins.
Voilà. Et puis, t'as du sang qui te sort du nez comme Tortue Géniale et tout.
C'était bien son âge. Moi, j'ai pas vu tous ces problèmes.
Si, vous vous rappelez pas qu'elle avait un qui se tournait avec nous, qui avait immobilier.
Mais oui.
Ça te rappelle ça? Ah, je pouvais pas tourner avec vous, j'ai immobilier.
Je m'en rappelle.
C'était pas mal celle-là. Bon, en privé de jeu.
Bah oui, c'est du coup ça a profité de cette scission-là, du scénario qui a
été. Ah non, pas tout à fait. D'abord, le premier truc, ça a été pour moi, c'était terminé, quoi. On venait de me tuer ma série.
À cette époque-là, pour toi, il n'y a pas de suite.
Oui, quand je le montais, le truc, vraiment jusqu'au moment où il a été fini. Je pensais que c'était le dernier que je tournais, voilà, c'était foutu en l'air. De part déjà, c'était déjà le cas parce que je barrais finalement, les études étaient terminées à Grenoble, donc on se cassait tous, on se reverrait plus.
D'accord.
On était des potes étudiants, on allait tous devoir évoluer. Et donc c'était plutôt cet état d'esprit, c'était un peu triste. Et en fait, c'est dans cette période-là où j'ai rencontré deux personnes, l'acteur qui joue Rémi et Guillaume qui nous a fait l'ange Dominique et qui m'ont vraiment boosté. Et Simon et Clémence se sont greffés aussi en disant faut pas faire mourir le projet. T'as deux connards qui t'ont fait un seul coup. C'est, le truc s'arrête là, mais tu peux rebondir. Et on a commencé à discuter de la façon dont ça pourrait rebondir. Et la saison 2 s'est dessinée dans la tête, en fait.
Voilà, et moi je me rappelle très bien du premier teaser de Damned Next 5, enfin 5.1, où ça commençait par on vous avait dit. Que c'était fini, et on finit sur toi qui dit poisson d'avril. Et en fait, voilà, tu dis ouais, je.
Ah, quel humour à l'époque!
Ah ouais!
Ah, c'était plus. Non,
mais. Je sais pas, non, mais.
On a baissé de niveau.
Non, mais voilà. au-delà de la blague, le simple fait que oui, ben on devait terminer, ben en fait, non.
Le rebond, tout à fait.
Et le rebond était vraiment énorme, quoi.
Ah, c'était un peu mon état d'esprit à ce moment-là. Du moment où je me suis dit putain, je vais repartir, il y a plein de choses intéressantes à faire. Forcément.
Et donc, la série Damned Next, qui est vraiment. Partir d'une série à part entière, voilà, quoi. Elle se démarque vraiment parce qu'il y a vraiment un côté mythologique qui est vraiment mis en avant avec des intrigues faites sur le long terme, tellement long terme que ben c'est pas encore terminé vraiment à 100%.
Donc, non, c'est vrai, oui, tout à fait. Hein.
Donc c'est ça qui traîne. Non, mais c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est que derrière l'humilité des moyens, il y a une vraie ambition scénaristique que les gens oublient, surtout maintenant à notre époque où les vidéos de chats font des millions de vues, voilà.
Quand on se lance dans un truc comme ça, écrire un film, que ce soit, on peut se trouver plein d'excuses. Le matériel, on fait avec ce qu'on a, la technique, on fait avec ce qu'on a, l'humain, on fait avec ce qu'on a, les sous, on fait avec ce qu'on a. Donc ça peut pas être aussi bien que les vrais. Enfin, il y a quand même des gens comme toi qui prouvent le contraire. C'est vrai. Mais voilà, mais quand même, à cette époque-là, c'était d'autant plus vrai que les outils n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, quoi. On n'avait pas l'accès à tout le tout numérique.
Bah ouais, ouais.
Ou alors, il était assez confidentiel, donc pour le choper, c'était un peu difficile. Et malgré tout, voilà, on peut se trouver plein d'excuses pour faire un truc un peu bidon. Par contre, quand on prend un papier ou un clavier et qu'on tape un scénario...
T'as
les mêmes moyens que le mec qui va écrire le scénario. C'est-à-dire que tu es sur un pied d'égalité. Donc si tu fais moins bien qu'un mec qui est pro, bah, c'est que tu es moins bon que le pro. Quoi. Et si tu fais de la merde, bah, c'est que tu fais vraiment de la merde. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même et à ta tête. Et donc du coup, c'est quand même... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Du coup, quand j'écris quelque chose, je veux dire, c'est un petit peu un challenge intellectuel, quoi. C'est un grand mot intellectuel quand tu fais juste des calembours, des jeux de mots, des situations, des trucs comme ça. Mais tout de même, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Je veux dire, voilà, moi, si je voyais... Je vais écrire un truc, si je voyais à l'écran, faut pas que j'en ai honte. Et voilà. Et donc,
bah, coup, ça, c'est vraiment un état d'esprit que... Enfin, c'est ça qui m'a vraiment marqué à l'époque où j'avais vu donc, le premier Damned... C'était d'année 3, donc à l'époque donc, de la nuit du film amateur sur Game One. C'était cette ambition-là, quoi. C'était le côté.
Je me rappelle. Jouer au grand un peu là-dessus.
Mais hein, c'était. Voilà, mais c'est ça qui m'a plu, moi. C'est ça que je me dis, ok, les mecs, ils se prennent pas la tête, et pourtant, c'est pas une raison pour faire juste de la parodie pour de la parodie. Et ça.
Voilà, non, on s'est jamais pris au sérieux sur ce qu'on faisait. Par contre, on a toujours fait les choses sérieusement, c'est-à-dire que voilà, quand on est dedans, tout le monde met la main à la pâte, hein. Toute l'équipe, Simon le premier, c'est pas des acteurs, c'est-à-dire qu'ils font pas leur scène et puis après ils vont en loge, hein. ils font
on a pas de loge, c'est le problème.
Si t'as les shots animés là, non, je dis pas les loges, ça sent un peu le ouf, surtout quand certains sont passés avant toi, merci quoi. On dira pas de nom. tout le monde est investi, c'est les premiers critiques, hein. Quand ils ont fait des scènes, qu'ils ont fait « Ah, je suis mauvais, est-ce que je suis nul, Rudy, putain, dis-le quand je suis nul. » Mais non, t'es pas nul, mais si, je suis nul. Ah, mais t'arrêtes pas de te dévaloriser. Ah, oh, putain, c'est moi maintenant, oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Voilà, donc on est tous un peu dans ce côté-là où on adore voir les autres, hein. On aime bien voir les autres jouer en général, sauf cas exceptionnel, et après, quand c'est notre tour, on se dénigre facilement, quoi. Donc on se prend pas au sérieux, mais on a toujours la volonté d'aller un peu plus loin.
Bah sinon, on
essaie de faire bien, quoi. Enfin, voilà. Bien autant qu'on sent, qu'on peut.
Parce qu'on n'a pas la prétention d'être ouais. des bons. Hein.
Mais c'est ça que, ouais, voilà, c'est ce décalage entre cette humilité et le résultat qui est quand même assez incroyable. Enfin, il faut toujours contextualiser, c'est-à-dire que je sais que bon, sur French Nerd, tout le monde ne peut pas apprécier la Flanders Company parce qu'ils peuvent avoir des blocages sur certains côtés, on va dire techniques, etc. Bon, on n'est pas là pour les obliger à aimer, mais les gens se rendent pas compte en fait que toutes les comment dire tout le talent est déployé dans des trucs qui ne se voient pas forcément. Le fait que la série continue d'exister au bout de 4 saisons alors que personne n'est payé sur la série, toutes les trames scénaristiques où t'as toujours envie de voir la suite, parce qu'il y a toujours un truc qui te tient en haleine, etc. Tous les détournements sur l'univers des super-héros et tout, enfin, il y a tellement de choses que les gens ne voient pas, parce que ils bloquent sur un truc, mais ça, avec le Vista Futur, c'est pareil, hein. C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas compte, mais quelqu'un qui n'aime pas Florent, qui fait des grands jets, il y a des gens, très clairement, qui m'ont dit, je vois pas l'intérêt du Vista Futur, parce qu'il y a un mec qui crie tout le temps. Mmh. À partir de là, tu peux pas aller convaincre, oui, mais c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Dis, non, il y a un mec qui crie, ça ne m'intéresse pas.
On a un support visuel, le support visuel, si tu n'y accroches pas, de base, tu vas avoir un souci, quoi. Soit tu fais un effort de volonté pour essayer de te plonger dans le truc, et ça ne marche en général pas, soit tu passes à autre chose, mais c'est normal. Nous, on propose un truc, ça peut pas être, que ce soit toi ou moi, on est loin, on le sait, on va pas faire l'unanimité, c'est une évidence. Après, quand tu proposes un truc à une tierce personne, tu vas avoir un public, tu lui présentes quelque chose, le public a tout à fait le droit de te dire « ça m'intéresse pas, c'est de la merde, au revoir. Bon, »
C'est une question de goût, de sensibilité, c'est une question de
goût. Il peut aussi s'abstenir de le crier sur tous les toits et forcément
d'essayer de... c'est le problème d'Internet.
Ça, c'est le problème. C'est le royaume des cons, excusez-moi. c'est comme les urnes, hein, je veux dire. tous les cons peuvent voter. Hein. Mais c'est pareil pour l'expression sur Internet. Mais en même temps, ça permet... Enfin, ça, je fais mon... Comment on dit ? Quand tu as... Mon réac, voilà. Je suis mon réac. Parce qu'à côté, quand même, voilà, ça permet... Ça permet une diffusion, c'est une super plateforme, ça permet des rencontres géniales, tu rencontres aussi des gens très très bien, tu peux avoir des échanges avec les gens qui sont super, etc. Après, c'est aussi, voilà, c'est le problème d'une tribune extrêmement libre, c'est que parfois c'est celui qui gueulera le plus fort que ce sera.
Mais ça, c'est marrant, c'est important. Tous ceux que j'ai rencontrés qui font des vidéos sur Internet, et le disent, et encore, il y en a qui le disent avec beaucoup plus de, comment dire...
virulence
envers leur propre public, des fois. C'est ça que je trouvais assez fou, c'est que tu as des créateurs de séries ou de vidéos ou des grands blogueurs qui disent, j'ai entendu dire, ah mais moi, de toute façon, mon public, c'est des cons. Hein. C'est des cons, ils disent de la merde, je voilà. Et...
C'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais c'est pour te dire que ça peut aller très loin. Il y en a qui carrément rejettent ça. Ils rejettent leur propre public et leur propre succès. Ça me fascine parce que je me dis putain, d'en arriver là, c'est dur, quoi. Et ce qui est bien avec la Flanders Company, c'est que vous avez un rapport avec le public qui est quand même très sain. C'est-à-dire que vu que vous êtes très présent en convention, etc., en côté humain, on peut vous rencontrer, etc., vu que vous n'avez pas de prétention justement professionnelle, justement le rapport il est beaucoup plus simple, quoi. Il est beaucoup plus...
On est accessible, on est open. Enfin, quand on est sur des salons, généralement, c'est que ça nous amuse, on aime bien ça, on rencontre des gens, on est content. Et là, c'est pas une obligation. Si on n'a pas envie, ça nous est déjà arrivé, on va dire, on va pas venir à tel événement, parce que là, on n'a pas spécialement envie, on enchaîne plein de tournages, on a envie de se reposer un week-end, et voilà. Mais du coup, quand on y va avec plaisir, donc
c'est la différence
entre... pour rencontrer des gens, pour discuter avec eux.
Un comédien professionnel, il signe un contrat, dans lequel son contrat, il stipule... qui doit faire la promo de son truc et serrer les mains des gens et sourire, c'est dans son truc. Il va travailler.
Un comédien, combien de projets qui vont le motiver, va avoir dans sa vie. Un comédien lambda. Je veux dire, à part les grandes, c'est ça, c'est normal. Le mec, il a fait son taf. Une fois le taf fini, rentre chez lui. Je sais pas, quand tu fabriques des fauteuils roulants à la chaîne, tu rentres chez toi, tu vas pas dire à ta femme, j'ai kiffé les fauteuils roulants. Enfin non, c'est parti de la routine. Après, tu passes à autre chose. C'est un peu ingrat pour le public, mais il faut le comprendre aussi. Nous, on est tous très impliqués dans le projet. On y croit, c'est notre bébé collectif. Quoi. On s'y met à plusieurs. Et voilà, on a cette espèce de mutant un peu improbable que les gens peuvent ne pas apprécier, et c'est leur droit et on s'en fout parce que nous on l'apprécie bien, et on est toujours en perpétuel émerveillement de voir que le petit mutant, il y a plein de gens qui aiment bien, quoi. Donc forcément, en allant dans ces on le prend pour nous quand on va dans ces conventions et que les gens disent qu'ils aiment, etc. Donc on est forcément content, donc on est forcément ouvert vers eux, quoi.
C'est ça qu'il faut et vraiment, moi, enfin, j'essaie vraiment, enfin, j'ai pas envie de convaincre les gens, etc., mais...
Il faut pas les convaincre.
Les gens,
ils se font l'idée.
J'ai vu des commentaires des gens qui me disaient « Quoi, t'aimes la Flanders Company, mais t'as pas le goût, alors ?» Ça veut dire, en gros, le respect que j'avais pour toi, je l'ai plus, tu vois. Et les mecs, déjà, t'as envie de les baffer, mais...
C'est ce qu'il y a de plus proche de l'amour, c'est la haine.
Ouais, voilà.
C'est un petit peu particulier, moi je comprends pas.
Il retourne sa veste en deux secondes, et je me dis...
Mais il y a des choses quand même j'aime pas, je lui dis bah non j'aime pas, puis je passe à autre chose. Mais cette volonté de dénigrer d'ailleurs.
Mais c'est surtout que les gens passent à côté.
Life, quoi.
En fait, c'est un peu, pour moi, je pense que la Flanders Company a un peu le même syndrome justement que Buffy contre les vampires. C'est-à-dire que dans Buffy.
Ça, c'est du compliment.
C'est bien.
C'est bien. Ça.
En fait,
tu as raison, François.
Je sais pas ce qu'il m'a dit, mais je dis que j'ai bien. Continue ton escroc pendant ce temps, je me caresse un téton.
Moi, je me casse. Hein.
Donc,
au revoir, monsieur.
En fait, dans l'interview de Joss Whedon, il disait. Il a volontairement appelé Buffy contre les vampires, Buffy contre les vampires. Mmh. Les gens disaient, mais c'est ridicule comme titre, Buffy. Buffy, c'est le nom le plus ridicule qu'on puisse trouver, contre les vampires. Mais, et en fait, il dit, ouais, mais c'est une façon d'éloigner les snobs, d'éloigner les gens qui ne pourront jamais comprendre ce qu'on fait, et d'être assez, finalement, on dit, ah, c'est débile. Et les gens, ils rentrent dedans avec un côté, oh, ça va être débile, une meuf qui tue des vampires. Et tous ceux qui ont suivi Buffy Vampire savent que ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Et que moi, enfin, tous ceux qui n'aiment pas Buffy contre les vampires, c'est ceux qui n'ont pas vu en fait. Ils disent, ah ben non, mais c'est ridicule, c'est une meuf qui tue des vampires.
La majorité peut-être. Il y a qui ont vu.
Ouais, non, mais tu peux ne pas accrocher à ce truc. Mais
il y a un côté très, très pulp en fait, très, très pop culture, super assumé, second degré décalé.
Mais avec un mec qui développe ses scénarios.
Ses scénaristiques qui sont hallucinants.
Et les scénarios. C'est l'enrobage, ça c'est l'enrobage.
Voilà, exactement.
Mais derrière, ça n'empêche pas.
Voilà, c'est ça, c'est question d'enrobage.
Putain, monde en carton mousse, hein, les monstres qui puent, la mythologie transformée, les mythes ésotériques américains, quand même, c'est, tu vois, genre, c'est très n'importe quoi, il n'y a pas de cohérence.
Et pourtant,
il n'y a pas de cohérence sur l'enrobage, sur les monstres et compagnie.
Ça peut
et putain, fourquer. À l'intérieur, toute la critique de la société,
tous
ces personnages qui sont développés, toutes ces histoires qui sont développées, toutes ces expériences qu'il a fait, les épisodes, les épisodes muets,
un épisode musical.
Enfin, voilà quoi.
Et ce qui fait que pour le public qui connaît.
Tu viens un personnage super important très très rapidement, craque comme ça.
Voilà.
Scénaristique.
Tu es un personnage encore important, mais d'une façon la plus naturelle, alors que tout est magique et tout. Et,
parfois aussi.
Voilà. Et en fait, au final, c'est ça le truc, c'est qu'en gros, c'est de l'humilité, je trouve. C'est le mec, il dit, ok, c'est d'apparence, c'est pour les enfants un peu. Et en fait. Quand tu rentres dedans, tu dis oh putain, mais en fait c'est tellement plus profond et tellement plus poussé.
Et je comprends, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé sur la série. J'avais découvert ça la première fois quand ça passait, je sur la 6, la saison 6. 1. J'avais un peu regardé. Bon, voilà, les vampires, c'est partie des créatures un peu mythologiques, folkloriques que j'aime beaucoup dans différentes œuvres, hein, que ce soit des bouquins ou des films. Donc je vois ça.
T'as vu Twilight ?
Ouais, malheureusement, ouais. je ferai pas de commentaire dessus. Et donc je vois un épisode de Buffy, et franchement je suis pas convaincu. Voilà, je vois cette bandasse un peu coconne, cheerleaderuse qui arrive dans un truc paumé avec sa copine Nagi Cotis et le mec drôle qui essaie de faire des nanas mais qui
arrive pas,
qui est le gros loser. Taper sur des mecs qui ont des vilaines prothèses faciales et deux tucs en guise de canine, je me dis non, ça peut être possible. Et puis bien un an plus tard. J'ai un pote, qu'on avait des goûts assez communs, qui m'en reparle. Je fais, attends, tu délires, j'ai vu les épisodes, c'est franchement pourri, quoi. Puis il commence à me vendre le truc, genre, mais non, attends, là, niveau histoire, c'est l'époque où il y avait, c'est pas qui Drusilla qui était arrivé, où j'ai le repassé méchant, etc. Il m'en parle, et puis je fais, ok, je rejette un œil. Et je rejette un œil à ce moment-là, et ouais, après, je me suis mangé la série. Moi, j'avais un a priori, avoir vu juste quelques instants,
mais tout le monde,
négatif que tu disais, et après, j'ai accroché en me plongeant dedans, quoi.
Moi, c'était pareil, pendant des années, j'ai refusé de regarder la série. J'ai snobé, j'étais vraiment un petit con, quoi. Qui snobait, disant, mais pourquoi je regarderais une série avec une meuf qui s'appelle Buffy.
Moi, ça a été ma première leçon personnelle, hein. Je veux dire, voilà, c'était mon. Je regardais la série et ça s'incrustait quelque part. Les mécanismes d'écriture de Joss Whedon et de son équipe, parce qu'évidemment, il n'y a pas tout ça à écrire. J'ai trouvé fascinant parce qu'il y avait vraiment des épisodes qui étaient t'avais des crescendo, tu te retournais, le retournement de situation, l'absurde qui arrivait, tout s'enchaînait.
Et surtout qu'il y avait un côté, il y a un truc très nihiliste chez Joss Whedon. C'est un mec qui n'est pas. C'est marrant parce que c'est l'inverse de J.J. Abrams. J.J. Abrams, c'est un mec qui va utiliser une apparence très sérieuse, très réaliste, et avec quand même un fond très classique. Voilà. Et des fois ça marche bien, hein. Mais ça reste très classique. C'est-à-dire qu'en gros, les gentils gagnent, les méchants meurent, et puis voilà. Joss Whedon, c'est l'inverse. C'est un mec qui va donner une apparence très cartoonesque, très, on va dire, enfantine, et en fait, son fond et super nihiliste, quoi. Ses fins de saison à chaque fois, même ses fins de série sont toujours très pessimistes, quoi. Ouais. Et ça, le mec va tellement plus loin que sa forme. Et donc, je reviens à la Flanders Company, parce que pour moi, c'est important d'en discuter, parce que là, on a donc la saison 4 qui arrive très prochainement, et qui, en plus, la saison 4, donc, bon, j'ai eu la chance de voir les épisodes en avant-première. Ce que je trouve génial, c'est qu'il recontextualise les personnages au sein de l'univers de la Flanders Company et de ce que fait la société. Enfin, la société, dans le sens, la société, l'entreprise, la Flanders Company. Et ça, c'est le truc pour moi, mais c'est, je sais pas, c'est l'idée du siècle, mais presque, quoi. La Flanders Company, la société Flanders Company, c'est une idée géniale. Et les gens l'oublient parce qu'ils considèrent que c'est un peu un prétexte pour qu'il y ait des super-héros et des méchants en costume. Mais la façon dont ils sont réunis, le cadre, est génial. Et c'est depuis le début, il y a ça. Mais c'est vrai qu'on l'oublie. Donc, est-ce que tu peux représenter la Flanders Company avec des mots et tout, pour que les gens sachent qu'est-ce que fait cette société-là?
Ah, ben, l'univers, c'était ça part d'un constat qu'on a eu il y a très longtemps, où on s'est réunis, Simon, Nicolas Robin, plein d'autres personnes autour, Clémence, il y avait Fred déjà, qui joue dans la Flanders, et on discutait un peu de tout ce qu'on faisait comme film amateur. Et on est arrivé à une espèce de consensus, on se disait tous.
Un consensus, je dois dire, il est arrivé assez tard.
Et voilà, on a quand même appris une soirée très nébuleuse où on a parlé de beaucoup de choses. On est arrivé à un constat en disant, voilà, c'est quand même, soyons honnêtes, dans tout ce qu'on fait, c'est tellement plus jouissif de jouer un méchant que de jouer un gentil. Les héros, ils sont stéréotypés, ils sont fadasses, hein, leurs actes sont dictés. Dès que tu as un vilain, tu peux faire ce que tu veux. Dès que tu as un méchant, tu fais ce que tu veux. Et donc, on était partis là-dessus, et alors là, on était tous déchirés, hein, par différentes substances tout à fait illicites, même alcoolisées surtout. On était vraiment dans un brouillard, on était partis. On allait faire un grand film commun, on allait faire le kibbutz du film amateur.
Est-ce que c'était avant que No Life fasse son...
Je te parle de 2000, moi.
Ah, d'accord, 2000, ok.
Donc c'était vraiment les premiers, à l'époque d'Amnet, les premiers d'Amnet, tout ça. On disait, allez, on va se faire un giga-film qui s'appellerait City of Villains, et ce serait, on parlerait que des méchants. C'est-à-dire, c'est les méchants, les héros, ils sont dans une ville qui contrôle.
C'est les méchants qui sont aux commandes, et ce sont les méchants personnels.
Tous les méchants de l'univers, ils sont là. Et on finira le film, les héros arrivent pour nous engloutir, et finalement sinon on se rend compte que c'est eux les méchants et tout, et à la fin c'est un des personnages qui fait tout sauter et c'est le seul qui survit. C'est vrai qu'en principe c'est normal, mais c'était, je vous rappelle, on était bourrés comme ça. Et on avait commencé, c'était les super noirs, on avait dessiné les costumes.
Ah ouais,
les costumes, je faisais un pyromancien, c'était horrible, voilà. C'était un feu partout, voilà, un pyromane, pardon. Et voilà, donc on était parti très loin, évidemment, le lendemain c'était fini, quoi. On s'est fait la moitié de ce qu'on avait dit, mais c'est quoi ces dessins, etc. Mais c'est resté dans un coin. Ça a été. Et quand No Life a été créé.
Vers 2006-2007.
Voilà, qu'on a dit, il faut faire un truc. Moi j'étais là, je peux pas faire d'Amnet. Je peux pas faire d'Amnet pour No Life, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire?
Parce qu'on avait la contrainte d'un format court. Ouais. C'est vrai qu'avant, en fait, tous ces films-là, ils faisaient entre 20 et 40 minutes. Ouais. On était seulement une 30 minutes avec d'Amnet. Donc là,
on allait sur un an pour le faire. Ouais. Donc là, on disait, voilà, il faut
un
faire.
Un an, 30 minutes, le beau faire 5 minutes.
Il faut amener du contenu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait Caméra Café qui venait de sortir, Kaamelott qui était assez balbutiement. Donc, on était là, on disait, ben voilà, c'est ça, ça en va là, il est bien.
Ouais.
Et donc, on est parti là-dessus. Et il a fallu trouver un concept, quelque chose. Hein. Et c'est là que ça s'est revenu en surface. Et j'ai commencé à écrire le concept de la Flanders Company. Je me suis fait aider par Bastien pour. J'ai présenté le truc, on a commencé à réfléchir à deux. Donc, on s'est fait un ping-pong qui a fait qu'on a pu mettre les formes de base de la Flanders. Hein. Et après, j'ai présenté tout ça aux différents protagonistes.
Et donc en fait, est-ce que par rapport à No Life, donc No Life, on se crée une chaîne créée par un pote à vous, qui a un espace de diffusion assez incroyable.
Et c'est ça, c'est un peu l'histoire du siècle. Alex nous annonce ça à tous de façon directe ou indirecte. Toi, t'ouvres grand les yeux, t'ouvres la bouche, t'as la langue qui pend, qui fait non, c'est vrai. On a une chaîne de télé qui va être créée, et c'est notre pote qui l'a créée, et en plus, il nous dit si vous voulez participer, proposez des choses. Donc nous, on est tous là, on se dit, putain, mais on a nos boulots et tout, on peut pas, on peut faire un film par an comme ça, pendant les vacances, mais là, on vient de rentrer dans la vie active, on n'a plus de vacances, il faudrait qu'on fasse une émission de télé. Donc on se dit, c'est pas possible. Puis après, tu te dis, ouais, mais putain, c'est l'occasion du siècle, si tu la loupes, t'es qu'un gros con, quoi. Donc forcément...
Autant tenter de se louper qu'un...
Voilà, autant tenter de se louper. De toute façon, c'est No Life, la chaîne Japopunk, quoi. C'est ce qu'on dit, est-ce que je dis à Alex, ta chaîne, c'est une chaîne punk, quoi. Parce qu'elle est faite, pas... Vous avez vraiment trois bouts de ficelle par rapport à une vraie chaîne de télé, et vous donnez tout ce que vous avez, et vous faites plus que certaines chaînes qui, elles, sont dans un secteur professionnel. Et puis après, on a vos chiffres, et là, on fait putain de grâce
maudite. C'est une même finalement, démarche que ce qu'on peut faire, nous, et nos vidéos. C'est, en fait, on n'a pas le matériel, on n'a pas les finances. Sauf beaucoup, on n'a pas la formation, on n'a pas tant de rien. Mais on va faire, on amène le trip, on va y aller, on va pas compter sur les des concessions, des efforts, etc. Puis au final, ça fait un résultat qui trouve écho. Après, est-ce qu'il est bon pendant une qualité, c'est difficile de juger, mais il y a des gens qui adhèrent.
Bah, c'est surtout ça, si vous avez, quand vous avez testé ça avec les festivals genre Cartooniste après Japan Expo, c'est que vous saviez que le tout n'allait pas se perdre dans le néant, quoi. Il y a quand même un public et un public demandeur.
Il y en a qui sont super fidèles, enfin qui nous suivent même depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on fait des vidéos ensemble sur de la Net 3.
Tous ceux qu'on n'a pas déjà
entendu. Il y a des gens, ça fait 12 ans qui te suivent, quoi, tu vois. Enfin, c'est hallucinant. Enfin,
c'est pas mal.
Et donc, en fait, cet intérêt de vouloir faire quelque chose qui n'a aucune rentrée d'argent, mais un, pour le plaisir de se retrouver, et deux, dans la connaissance qu'il y aura quand même un écho face à un public qui... Et encore, oui, à l'époque, il n'y avait pas les chiffres de No Life, donc...
Ah non, c'était vraiment l'expérience, du coup. Hein, ouais. Pour nous, il allait avoir 1000 pelés qui allaient allumer leur télé et choper ça. Ouais,
on n'en savait rien.
On pouvait pas savoir, c'était pas mesurable.
Comme nous, c'était web-série, ben, c'est un peu une web-TV, quoi. Donc, même si c'est diffusé sur les canaux des boîtes de fournisseurs d'accès Internet, pour l'instant... Ouais. Peut-être bientôt ça changera, mais pour l'instant, pas le câble, ni cette télé, ni
rien. Entre le temps où on a entendu parler et le temps où ça s'est lancé, il y a eu 2 ans, quoi.
Et donc, donc la Flanders Company, donc, en t'inspirant un peu du côté caméra café, Camelot, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, donc, Damned était en cours de production et devenait quelque chose d'assez énorme, d'épique, avec des combats hallucinants.
Ouais, il fallait refaire tout à
fait. Et avec la Flanders, voilà, tu rabaisses tes ambitions un peu. Et tu recadres le format dans un format court, limite. Il y a même dans le début de la Flanders, c'est plan fixe, c'est deux personnages qui parlent sur le canapé.
Bien sûr, on était là, on a dit, putain, il faut faire plein d'épisodes, il faut en faire 3 par mois. Ouais. Comment on peut faire en n'ayant que les week-ends?
Voilà.
Et ben, on va limiter tout. On se limite à une unité de lieu. On a beaucoup écrit le concept avant de commencer les tournages. Moi, je suis parti du leitmotiv de base, c'est moi qui l'ai sorti. Parce qu'on est dans un monde où il y a des super-héros et des super-vilains. Sauf qu'ils sont, ils travaillent main dans la main. C'est-à-dire, les super-héros ont besoin de... C'est des businessmen, voilà. Ils ont une image à capitaliser, etc.
C'est des stars.
J'avais un peu le modèle du panthéon pratiquien, quoi. Où un dieu n'existe que quand le peuple a la foi. Et voilà. Plus le nombre de fidèles est important, et plus le dieu a de la puissance. Voilà. Ça, c'est un concept. Ça, j'avais un peu ça en tête, quoi. Genre, voilà, les super-héros se gargarisent de.
Mais avec une critique de la société de stratification et du capitalisme.
Je revenais d'une formation d'ingénieur à généraliste où j'avais travaillé dans une boîte où les conditions de travail des gens qu'on faisait bosser dans le tiers-monde étaient hallucinantes. Je veux dire, j'étais revenu de l'entreprise complètement avec des désillusions pas possibles.
Ouais.
Et ma première chose, c'était je fais une critique avec mes références à moi sur ce monde-là de l'entreprise.
Voilà.
Sur ce monde d'entreprise, ce monde pourri. Ouais. Je veux dire, finalement, les super-viens ici, c'était une période où j'étais dans ma tête, c'était les super-viens de ce monde réel, quoi. C'est pas Ben Laden et les mecs qui font péter 2 putains de tours. C'est les mecs qui tuent des centaines d'Africains à aller creuser dans les mines de cobalt, etc. Quoi.
Donc finalement, le pire méchant, c'est plutôt Armand Truman dans le...
Plutôt les actionnaires.
Les actionnaires, d'accord. Okay.
Qui font virer à la saison 2 sans aucun état d'âme, qui font revenir sans aucun état d'âme, ce genre de choses.
Qui changent la politique de la boîte sans réflexion. Voilà.
Qui font que des gens comme ça, comme entre main d'autres, existent.
Voilà.
Ça, c'est qu'il y a des gens qui bénéficient.
Dans le pitch de base, il y avait pas mal de.
Mais c'est ça que je trouve génial.
Du monde de l'entreprise.
L'entreprise et la certification. Et un peu les sportifs. Moi, les super-héros, par exemple, je les vois comme des sportifs.
Voilà. Les
sportifs, en fait, le match sont toujours truqués.
Ouais.
Et les super-vilains sont les mecs qui acceptent de recevoir l'argent et de dire OK, je me couche à la fin.
Bah, dans les trucs de catch, c'est ça. C'est que du spectacle. Et souvent, dans ce milieu-là, les gens dans le milieu du catch, les gens qui font le rôle des méchants sont des mecs très humbles et adorables. Et les mecs qui font le rôle des héros sont souvent des ordures en fait. Et ça, je trouve, dans la Flanders, dans la saison 1, l'épisode qui montre très très bien ce mécanisme-là, c'est vraiment avec l'épisode sur Harry Potter, en fait. Mmh, où c'est un enfant gâté, un peu.
Bien sûr, oui.
Bah,
moi, je m'étais dit, enfin, il y avait plein de phrases qui me venaient dans la tête. Je me rappelle d'une, c'était si Superman était vraiment arrivé en Amérique, il n'aurait jamais été altruiste. Il n'aurait pas pu. Ouais. La société qui l'aurait élevé n'aurait pas pu créer Superman.
Ouais.
Clark Kent, oui.
Ouais.
Pas Superman.
Ouais.
Donc, du coup, voilà. C'était ce genre de petites phrases à la con que j'avais dans la tête qui ont fait que la Flanders a eu la forme. En tout cas, le pitch de la Flanders a eu cette forme-là. Mm. Après, il y a aussi le fait que voilà, c'est très utile, c'est très intéressant à utiliser. Mais si on fait un truc tout autour de ça, on n'aura sans doute pas les épaules.
Bah,
il faut vraiment toute une, là il faut vraiment une structure pour faire ça sérieusement,
tu vois,
pour faire une parodie de ce truc là vraiment dans ce thème là avec le côté bien noir, etc. il aurait fallu vraiment une structure pro pour moi.
Mais ce que tu as réussi à faire en fait, alors, la saison 1 montre un peu se concentre plutôt sur le quotidien en fait, oui, des employés. Et le côté un peu le côté drôle, du côté ils travaillent dans un milieu de fou avec des super-héros, mais c'est leur quotidien pour eux, c'est normal quoi.
Tout à fait.
Et donc là tu développes chaque personnage et du bureau et tu centres aussi sur le côté on va dire le bas de l'échelle finalement. Bien avec Hippolyte qui se retrouve obligé avec les pires pouvoirs et tout, les gens avec les pires pouvoirs.
Hippolyte, donc c'est le DRH, donc voilà. C'est du recrutement de tous les aspirants super vilains qui veulent venir à la Founders Company, puisque pour finir ce qu'on disait, au final, donc les super héros, c'est des espèces de sportifs, louent les services des super vilains afin de faire de beaux combats et que les super héros puissent sauver la veuve et l'orphelin, brillant
sur voilà.
Donc le méchant est un employé de la Founders. Et donc il n'y a plus de DRH qui recrute.
Et ça, c'est
vraiment des gros losers.
C'est tellement génial parce qu'on oublie ça. C'est-à-dire qu'on oublie vraiment que ce sont des méchants. Et donc, et c'est rappelé un peu de façon, je trouve, géniale à la fin de la saison 3. Quoi. Mais donc, en gros, donc, saison 1, donc, c'est ça, c'est un peu le quotidien. Et on voit que, à part quelques épisodes, en gros, tu as essayé au moins de mettre les bases du côté un peu quotidien, caméra café et tout. Mais dès la saison 2, très clairement, tu dis bon, bah, c'est bon, ça, on sait faire. C'est bon, on l'a fait.
Là, c'est exactement ça. En fait.
Voilà.
C'est exactement ça, la saison 1, cloisonner à mort pour pas se planter. Mm. Pour pouvoir donner à Alex le nombre d'épisodes qu'on a dit qu'on donnerait, etc. Et très vite, en fait, on a tourné beaucoup d'épisodes avant de les diffuser. Et après, avec le rythme de diffusion, la première chose que j'ai dit au bout du quatrième épisode filmé, c'est que j'ai tout merdé. J'ai complètement merdé la vitesse à laquelle ça peut avancer vers où on voudrait que ça avance, avec le rythme de diffusion qui est imposé.
Ouais.
Si on met tout à la suite, ça passe. Mais c'est pareil comme ça avec une semaine, deux semaines entre les épisodes, pour moi c'était j'ai fait une catastrophe. Et donc à la fin de déjà au milieu de la saison 1, on commence à faire interagir les personnages, parce qu'on était parti sur le principe avec Bastien, les personnages sont séparés, n'interagissent pas.
Ouais.
Et là je me rendais compte que ça marchait pour quelques épisodes, mais ça allait vite revenir relou quoi. Donc j'ai dit à Bastien, ça on le casse, on fait interagir. Bon, du coup j'ai un peu pris la main sur les scénarios et j'ai commencé à faire un peu ce que je voulais. Et à la fin de la saison, on l'a fait, j'ai fait, bon, c'est pas ça que je voudrais faire finalement. On va changer tout le principe de base, de façon à faire quelque chose de plus d'amnésien.
Voilà, donc plus mythologique, plus de feuilletons, plus de fil rouge.
Plus de substance dans l'univers. Les personnages sont très intéressants, maintenant il faut les mettre dans un univers qui soit un peu plus
dense. C'est ça, parce qu'ils sont intéressants, mais ils restent tout de même assez stéréotypés pour être assez forts et en un type. Donc ce qui est intéressant quand on a des personnages qui sont simplistes sur leur caractère ou leur réaction, c'est de jouer les situations. Et rien que les faire interagir ensemble, sur la saison 2, on a beaucoup joué là-dessus. Ça permettait de développer des choses qui étaient intéressantes quoi, et surtout qui nous plaisaient. Autant que Rudy s'est dit ok, bon mais là on va changer la formule parce que ça ne m'allait pas. Nous aussi on a tous envie à chaque fois de faire quelque chose de nouveau ou de modifier un peu la donne pour que ça reste à chaque fois.
Chaque fin de saison c'est la condition pour qu'on reprenne. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on a un truc qu'on voudrait développer? Est-ce qu'il y a un truc qu'on voudrait expérimenter? Et si ça nous donne envie, alors ouais,
on peut faire différemment.
Donc, justement, la saison 2, la vraie différence, donc, c'est qu'il y a, pour le coup, il y a des vrais méchants, dans le sens antagonistes, des personnages principaux qui interviennent. Moi, pour moi, perso, je vais faire une mini critique de la saison 2. Pour moi, c'est en termes de construction dramatique de la saison 2, elle est vraiment parfaite. Parce que dans les premiers épisodes, elle remet en place l'univers de la Flanders, avec des gags, avec des trucs assez marrants. Au bout d'un moment, donc, il y a ces nouveaux personnages qui arrivent, et ces personnages-là sont d'apparence très connes, en fait. Voilà, ils paraissent un peu inoffensifs, un peu chiants. Et en fait, ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils vont vraiment pourrir la vie de chaque personnage et les pousser à démissionner. Donc là, tu as vraiment le retour de la critique sociale aussi, enfin, de la société et du monde de l'entreprise, avec donc ce côté rachat, harcèlement moral, on pousse les gens à la démission et tout.
Le côté société parasite aussi, on absorbe une société, voilà. Puis petit à petit, on vire tout le monde. Quoi.
Et ça, c'est vraiment puissant, parce que pour le coup, les méchants de la saison 2, c'est pas des... Il se trouve qu'ils ont des super pouvoirs, ça qui est drôle, c'est oui. Que même si à la base c'est des actionnaires, et le fait qu'ils aient des super pouvoirs permet au final d'être explosif, quoi. Ouais. D'avoir un final où les gens ils se sont foutus sur la gueule psychologiquement, et maintenant ils se foutent sur la gueule physiquement.
Voilà.
Et on a un final de saison 2 qui est vraiment du niveau de Damned.
Germinal, mais version Marvel, quand même.
Germinal,
enfin, saison 2, c'est ça.
Nous allons reprendre notre société. Vous, rond de cuir, grenez notre courue atomique.
Non, c'est ça, quoi.
Il a fallu qu'on engage Renault, quoi.
Donc pour moi, la saison 2, elle est vraiment ultime à ce niveau-là. Donc, avec un beau finish, avec une introduction de personnages, on va dire, antagonistes, mais tous, vachement, une bonne panoplie de cons intéressants. Et tellement intéressants que la saison 3 repose un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'ils reviennent dans la saison 3 avec un système d'alliance. Tu vois. Tellement
c'est les ennemis communs.
Voilà, il y a un ennemi commun.
L'équipe de la CC, ça a été un bonheur de les mettre en place. Et dans la saison 3, de faire en sorte que ces personnages qui étaient voués à disparaître, finalement, nous amènent toute l'intrigue. La saison 3, c'est la Flanders aux fraises. Et là, c'est les personnages secondaires qui prennent tout dans la gueule et qui, du coup,
ramènent. Et c'est pour ça que même le générique change à un moment où c'est le générique de la CC Corporation. Et ça, je trouve ça énorme. Et très humble aussi, parce que beaucoup de gens font des séries ou des séries, surtout, en plus, on oublie, mais tu joues dedans, tu vois. Et pourtant, tu es. Le mec, c'est, je trouve trop drôle, c'est que tu es le personnage assez secondaire, un peu le lourdeau, et à un moment, mais c'est drôle, c'est que les gens, dans l'épisode que j'ai vu, il y a une réplique que je peux dire, c'est un personnage te dit, non mais je te rappelle, c'est toi le cerveau, et t'as l'air d'être le premier surpris, genre, ah oui, ah ben on n'est pas dans la merde, tu vois. Donc il y a cette humilité de par ton personnage qui fait que tout ce que tu veux, c'est mettre en avant les gens que tu trouves les plus intéressants. Donc, dans la saison 3, c'est plus la CC Corporation qui est mis en avant.
Ils sont tous mis en avant, mais c'est vrai qu'on avait bien manipulé la Flanders, on les avait bien mis en évidence. Et c'est vrai que j'ai traité avec beaucoup d'affection ces personnages de la CC, finalement. Et je les ai montés en mayonnaise, finalement. Je les ai bien mis devant de la scène.
Aussi, c'est une façon intéressante de les introduire dans la série, puisque si on part sur le principe que c'est la Flanders qui va être au cœur du fil rouge du scénar de la saison, quel intérêt peut avoir la Flanders à trouver la CC, alors que là, du coup, que les personnages principaux soient comme nous dirait du aux fraises, il y a des trucs qui se passent, mais on a vraiment aucune info, on a zéro d'infos dessus, et que les personnages antagonistes secondaires, eux, se prennent ça dans la tête, jusqu'au moment où ils sont obligés de contacter la Flanders pour s'allier, ça qui est intéressant, ça amène le scénar, ça les justifie vraiment dans l'histoire, quoi.
Bah carrément,
de façon naturelle,
surtout que la façon
qui est bien construit aussi.
La façon où ça introduit, c'est génial, parce qu'on est dans un épisode où tout un épisode centré sur la CC Corporation, où on découvre les mécanismes de la CC Corporation, on découvre Chantal Connasse qui a donné la CC Corporation, on se dit putain, mais ça y est, c'est ça, c'est le retour là. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de cet épisode?
Mais ça, on a l'impression que ça y est, c'est
okay, on a
ils ont un super plan qu'ils vont mettre en place.
Et ils se font exploser en deux secondes.
Mais tant mieux, c'est trop des inconnus. Trop évident, sinon.
Et après, l'intrigue bifurque et on est avec eux. Et on se dit, merde, c'est vraiment... Alors, de toute façon, je vais faire une référence à
ça, cinématographique. Ça, c'est du Whedon.
C'est du Whedon, ouais.
Pour moi, c'est ça. Parce que c'est exactement comme quand t'as Angel qui change de camp.
Voilà.
Du coup, l'axe change. Ou alors, t'as un personnage qui est mis en flèche, comme Miss Calendar. Je comprends la saison 2, la saison 2, parce que c'était là...
Tout a changé, ils ont
remis. C'est là où, quand j'ai vu les mecs, des trucs qu'ils mettaient en place, comment il allait de l'humour à l'horreur, de la tension au divertissement, etc. Pour moi, c'était une révélation, quoi. Quand Angel tue Miss Calendar, c'était un personnage qui était monté en mayonnaise pendant 4-5 épisodes, qui disparaît, et ça a tellement d'implications finalement que tu dis c'est pas possible, il y a tout qui change.
Et donc là, on se retrouve avec un nouveau groupe d'antagonistes qui est très mystérieux sur la majorité de la saison, et qui est expliqué à la fin, et ça que je trouve vraiment génial. Alors pareil, encore des spoilers et tout, mais donc à la fin de la saison 3, on comprend un peu ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et on comprend en fait. Ces personnages, c'est des on va dire des idéalistes un peu, même s'ils sont un peu tarés, dans le sens où ils veulent remettre... idéalistes dans le monde de la Flandre, dans le sens où ils rejettent le modèle économique et le modèle, on va dire, l'idéal de la Flandre. Ils disent, voilà, les méchants qui s'associent aux gentils...
ça, c'est pas la collaboration. Ils veulent de l'affrontement direct. Ils veulent que les héros tuent, détruisent les super-vilains parce que c'est de mal.
Voilà.
Le bien extrême, c'est des fanatiques. Ils sont fanatiques.
Voilà,
c'est des fanatiques.
Ça, ils ont ce côté folie où ils n'arrivent plus à un moment donné, même si c'est axé sur la vision entre le bien et le mal, à un moment donné, ils ne savent plus où se trouve vraiment la limite.
Voilà.
Où ils vont déborder forcément. Parce
donc
que
en fait, c'est
le
c'est
mal, il n'est pas quelque chose.
Ils sont tellement attachés à une éthique qu'ils ne voient pas qu'il la bafoue.
Voilà. C'est des super-gentils qui font des actes terroristes pour défendre le fait qu'il faut remettre les valeurs ancestrales, le bien contre le mal.
Voilà, il faut, voilà, on ne peut pas, il n'y a pas de conception.
C'est des fondamentalistes.
Des fondamentalistes, voilà.
Pour voir des critiques.
Bah oui, mais non, mais voilà, mais c'est génial. Et le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils font exploser un immeuble. Enfin,
oui,
c'est la première fois qu'on les voit, ils font boum.
Tout un immeuble, ils font pas attention aux conséquences.
Et donc, moi, je trouve ça vraiment super intéressant, vraiment. Mais...
quand on l'a mis en place, on pensait que ça serait intéressant aussi. Ouais. Donc, je suis content de l'entendre, quoi. Mais voilà, c'est ça. On tente des trucs.
Mais on peut passer à côté, c'est-à-dire que les gens...
Bon, on le fait avec nos moyens. Donc, ouais. Je veux dire, quelque part, pour des gens, ça va être raté. Pour des gens, ça va être opaque. Donc, c'est que...
Puis c'est vrai qu'aussi, après, il faut... Le côté fil rouge et feuilletonnant dans ces saisons-là, enfin, la 2, la 3 particulièrement, la 4, ça va être encore plus... Il y a l'intérêt à le voir dans, pas dans l'ordre de tous les épisodes, mais de voir certains épisodes dans une continuité.
Bah oui, et tu achètes le détail et n'est jamais trop anodin.
Voilà,
et donc pour moi, le final de la saison 3, c'est peut-être un truc que j'ai vu le plus sur internet en boucle. Quoi. Tellement qu'il m'a bluffé, parce que c'est un mélange de plein de trucs, c'est à la fois du Damned, de la comédie musicale, mais pour moi, le moment fort, le climax de la saison 3, donc quand ton personnage... le personnage de Armand Truman réexplique pourquoi la Flanders Company a été créée et réexplique
le système.
Et c'est tellement fort, la thématique est tellement bien amenée parce que, on peut l'oublier et on peut se dire, mais ouais, la Flanders Company, c'est juste des fonctionnaires qui travaillent ça et qui ne se posent pas de questions. Mais Armand Truman, lui, il sait pourquoi il le fait. Et il a une vision globale quand même qui est très juste au final, qui même s'il est beaucoup basé sur l'argent, elle est quand même très juste. Et donc ton personnage dit très clairement, non mais si les gentils et les méchants devraient s'affronter réellement, pour de vrai, sans règles,
vous avez aucune chance.
Les méchants, ils gagnent.
C'est clair.
Parce que les méchants n'ont pas de limite. Les méchants peuvent tuer des innocents là où les gentils vont toujours, voilà. Et donc en gros, que tout le monde, entre guillemets, de Marvel ou de DC Comics, il est complètement idéaliste parce que la plupart du temps les gentils gagnent d'une façon un peu facile, on va dire. Ils trouvent toujours un stratagème, mais concrètement, s'il y avait des vrais gens avec des vrais super pouvoirs qui se foutraient sur la gueule, ce serait les méchants qui gagneraient.
C'est celui qui s'autoriserait tout, oui, a priori, oui.
Et c'est d'ailleurs vachement bien traité ça dans ils ont réussi à le traiter ce côté là
dans Marvel.
Dans Marvel, mais de façon un peu étournée, c'est dans Civil War.
Ouais.
Donc, crossover, il y a quelques années, où finalement, certains héros pensent qu'il faut recenser et encadrer tous les super-humains, que ce soit les mutants ou les gens extraterrestres, bref. Et d'autres héros qui pensent donc qu'il ne faut pas contrôler et identifier, sinon c'est de espèce d'emprisonnement, d'esclavagisme.
Ouais.
Et en fait, donc, il y a deux camps qui se forment, ils se battent. Et à un moment, il y en a un qui décide de... qui décide donc d'abandonner parce que ça fait trop de dommages autour.
Ouais.
Donc, quand t'es vraiment gentil, entre guillemets, tu t'es obligé de perdre.
Ouais.
Enfin, c'est quelqu'un qui n'a aucune limite et qui veut mettre en place tous les moyens d'arriver à son but. Quoi.
Bah ouais, donc c'est ça que je trouvais vraiment fort. Et donc ça, c'était la fin de la saison 3. Là, on va teaser un petit peu sur la saison 4. Puisque dans la saison 4, très prochainement, donc là, je sais pas quand le podcast sera diffusé, mais en gros, donc ce vendredi, à quelle heure?
19h30
sur nos lives.
Une heure après, suivant le temps qu'il fera à Perpignan sur la télé.
Et donc, la nouvelle saison a pour le coup, a une autre thématique. Mais, pareil, sans vouloir spoiler, elle joue sur la même, le même principe, à savoir, ok, vous pensez tout connaître du côté super-héros, super-méchant, on va vous montrer autre chose. Et donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la saison 4? Quelle était votre. L'idée de base, on va dire, qui vous a poussé à faire la saison 4? Comme tu dis, à chaque fin de saison, il faut se motiver pour faire la saison.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire qu'on n'a pas encore exploré? La saison 3, c'était la thématique super-héros. On n'avait pas encore mis des antagonistes super-héros. Qui semblent évidents par rapport à la thématique. On avait voulu se garder sous le coude.
Voilà,
pour sortir, mais pas, pas, voilà, pas de suite. De façon, pas de suite.
Ah, on voulait se donner le temps de l'aborder de façon originale.
Ouais, voilà. Là, il fallait aussi une idée. Donc, il y a une idée qui a été trouvée. On ne va pas la dire parce que ça révélerait l'idée.
Forcément,
la saison. On ne peut pas trop en parler. C'est difficile. C'est difficile. Parce que ça commence très vite en fait. C'est-à-dire que dès les premiers épisodes, le fil rouge arrive.
Le pitch principal, il y a quelque chose de gros qui se met en place dans les 4 premiers épisodes.
Voilà.
En gros, quatrième épisode, c'est bon, on est.
L'affaire est réglée. Je pense que ce que je peux dire, ayant vu les premiers, on a un premier épisode de la saison 4 qui, d'apparence, fait vraiment très Flanders Company classique, saison 1, saison 2, saison 3, voilà. C'est pour un peu remettre les gens dans le bain et dire voilà, Flanders Company c'est ça. Mais dès l'épisode 2 et l'épisode 3, tout bascule très vite. Et surtout, c'est là où c'est très malin, c'est que c'est à la fois une nouvelle idée, mais dans la continuité scénaristique de l'univers de la Flanders, et tout est lié.
Et on utilise quelque chose qui est très utilisé dans l'univers des super-héros aussi.
Oui, mais il y a la cause de ça.
La façon de la faire. Quand on a tourné certains épisodes de la saison 3, on avait mené déjà l'idée pour la saison 4. Donc
vous l'aviez un peu semé.
On a préparé le terrain. Voilà.
Mais c'est ça que je trouve génial, c'est que putain, mais même dans les séries françaises qui font des audiences de fou, ils font jamais ça. Ils font jamais ce mécanisme-là. Non, voilà. C'est ça qui est incroyable. C'est que ça paraît amateur, ça paraît fait dans l'esprit potache, mais il y a un vrai travail d'histoire et tout qui mérite vraiment d'être analysé, d'être discuté. Et c'est tout ce que j'espère vraiment pour la saison 4 et la suite de la Flanders.
Oui, non, tu sais, c'est pas. Nous, on est. Enfin. Je comprends le principe, on est les premiers à discuter de ce qu'on fait, des tenants et des aboutissants, mais c'est quelque part on se dit ça sur un discours, voilà, on a envie de se branler un peu la tête sur ce qu'on fait, assumons cet onanisme, faisons-le, mais soyons clairs avec nous-mêmes, on fait du divertissement, donc déjà quand les gens, quand on sent, ce qui est bien quand on fait des projections publiques, c'est que du coup t'as l'impression d'assister à la projection d'une sitcom, c'est-à-dire que t'as des gens très réactifs qui réagissent en même temps que ce qu'ils voient. Et je pense que c'est là qu'on prend. Là, il y a un grand plaisir à partager des moments comme ça. Parce qu'on est là, on est très content de voir des gens qui rentrent dans le truc, qui se posent pas trop de questions, et qui passent un beau moment, qui rigolent beaucoup, qui sont surpris quand nous, on voulait surprendre, qui sont.
Qui
retiennent un peu leur souffle quand on a voulu mettre un peu de tension, etc. Qui rigolent. Alors, parfois, ça rigole parfois aussi, il y a des choses, on se dit, mais c'est juste un peu fait.
Je me rappellerai toujours la diffusion de l'avant-dernier épisode, vraiment l'avant-dernier épisode de la saison 3 à Japan Expo.
Ouais.
Après le coup du chaos.
Où il y a donc les deux camps inverses qui foncent l'un sur l'autre, et là ça se termine, je me dis qu'il y a, c'est marqué à suivre. Et là, on a filmé à un moment donné la scène, enfin les gens, le public, et on les voit, ils figent. Ils sont là, mais suspendus, finalement, ils font « Non !» Et t'as 200-300 personnes qui ont la même réaction. C'est génial, ce passage-là, il est.
Mais ça, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a des auteurs, réalisateurs, entre guillemets, professionnels, ils passent... Ils parlent comme ça, déjà. Et ils passent des années à essayer de provoquer la moindre réaction chez un public, tu vois. Et ils n'y arrivent pas. En gros... provoquer ce genre de réaction de non et tout, c'est un c'est ce que rêvent des gens qui sont à Hollywood et qui travaillent comme auteurs de sitcom et tout, etc. Et qui finalement galèrent.
Ça, c'est vachement une mention qui est vachement belle, je trouve, dans ce qu'on peut faire dans ce loisir là. Et aussi, là, tout part de l'envie, je pense, de raconter une histoire, raconter quelque chose, raconter des personnages, raconter une situation avec nos moyens. Et il est clair que. Les gens, quand ils lisent ou entendent cette histoire-là, si ça les laisse pas insensibles, les fait réagir. Ça, c'est la deuxième partie. Il faut faire réagir. Si on laisse quelqu'un comme moins sensible par rapport à ce qu'on peut faire.
Bon. Comme tu disais, on peut pas plaire à tout le monde et tout.
Bien sûr.
Mais dans la Flanders, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y a un état d'esprit qui. Même si la série a évolué, l'état d'esprit, c'est le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment où vous êtes dit. Ah, mais la tendance, c'est ça, donc on va peut-être respecter.
Ah non, voilà. On n'est pas là.
Toutes les modifications viennent vraiment de l'intérieur, de qu'est-ce qui nous ferait plaisir de voir, comment on
peut... Et qu'est-ce qui nous ferait plaisir de faire, c'est voilà. On fait vraiment c'est ce qu'on veut, et on se met pas de limites ou de contraintes, et c'est pour ça qu'on aime bien cette liberté qu'on a.
Chaque fois que vous avez Fred travesti, c'est qu'il le voulait, absolument. Je tiens à préciser, ce n'est pas ma chose, ce n'est pas moi qui lui impose...
C'est pas un délire de Rudy,
de couiner comme une grosse truie en costume latex, talons aiguilles et seins apparents dans la saison 3. Non, c'est un souhait personnel. Je tiens à préciser... Ce n'est pas mes fantasmes qu'on voyait à l'écran. Ils n'appartiennent pas.
Donc voilà, donc c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est que y a une unité vraiment dans l'écriture aussi, dans la bande. Forcément, la mise en scène qui, pour moi, est toujours surprenante et tellement captivante. Enfin, ça bouge tellement et en même temps, c'est avec trois fois rien, quoi, vraiment. Et bref, donc je souhaite vraiment tout le bonheur pour la suite. Donc j'ai pu voir les prochains.
Arrête, tu es comme ça, tu vas encore recevoir des messages comme quoi t'as pas de goût et tout.
Bah, je sais, mais.
Le truc, les gens ils vont t'écrire en disant quoi, tu aimes la Flandeur.
Non, mais.
T'as pas de goût, ah, mais bah, tu n'es pas celui que je croyais.
Mais
ah,
voilà,
je
mais franchement.
Ils
se rendent. Alors, je sais pas, mais ils se rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte et. Il y en a, je connais des gens qui, à partir du moment où il y a un problème au niveau du son, un problème au niveau de l'image, ils vont dire « je vois pas l'intérêt de regarder ». Donc ça va les couper totalement.
C'est parce que c'est ce qu'ils cherchent dans une production du visuel. Voilà. Parce que là, mais c'est très bien qu'ils aillent voir ailleurs.
Voilà.
C'est vrai que c'est pas
bien. Et ça, c'est un truc, donc je vais conclure là-dessus parce que... Conclure, putain, je suis vraiment bourré.
Conclure.
Je commence à parler à la Vandame, là. C'est que... il y a donc, pratiquement 10 ans, quand j'ai vu Damned 3, et donc j'étais en première et tout, à cette époque-là, moi, je voulais faire des films, c'est sûr. Mais je me disais, bah, de toute façon, il faut aller à l'école pour faire des films, enfin, à l'école du cinéma. Mmh. Et à ce qui paraît, la meilleure école, c'est la FEMIS. Et donc, il faut attendre d'avoir Bac plus 2 et après faire 5 ans de FEMIS. Et là, je pourrais faire un scénario et faire un film. C'est-à-dire que c'était ça un peu, moi, je me disais, bah, c'est comme ça qu'on doit faire.
Ah, ton cursus.
Voilà. Je vois Damned 3, et là, mon cerveau fait poum, et je parle à Florent, je dis écoute, je pense qu'on peut faire des trucs plus ambitieux et ce sera jamais parfait et c'est pas grave parce que il y a des mecs, ils ont fait un film qui s'appelle Damned 3 où il y a une histoire, où il y a des personnages, ils ont vachement d'ambition, et même si c'est pas parfait, et ben les qualités surpassent les défauts et donc à partir de là tout est possible, c'est-à-dire que tu admets le fait que t'auras des défauts, mais si tu mets des qualités et des choses de toi d'original et que tu pousses à fond, tu travailles dur, et ben au final tu auras quelque chose de qualité, les gens vont regarder et vont kiffer et vont pardonner les défauts. Et ça c'est une mentalité que je me suis fixée depuis 10 ans et c'est grâce à vous quoi, c'est grâce à ce que vous avez fait, à tout ce mouvement de film amateur entre guillemets qui a été créé et
c'est grâce aux hippies de Toulon.
Ça. Voilà, grâce au voilà, c'était ça.
C'était un peu ça carte.
À la base, c'était ça. Et donc les gens ils ont tendance à oublier ça et ils s'attachent au côté superficiel on va dire de la vidéo et ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est-à-dire qu'ils peuvent être bloqués et ne pas regarder dedans.
Après ce qui est important aussi c'est notamment dans ce qu'on peut faire c'est l'âme en fait.
Voilà,
c'est la patate, c'est le truc voilà, qui est derrière.
Tu peux adhérer à un état d'esprit.
La particularité qui fait que...
C'est trop difficile de faire un bon film sans âme, bah oui. Même si la technique
est... J'ai vu des films, je me rappelle, j'avais vu un film au cinéma, il s'appelait Stalingrad, le film de Jean-Luc Lano. Un film, je me suis dit, ce film n'a aucun défaut. Mais il n'a aucune qualité pour autant. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai vu, j'ai fait, ok, je vois pas ce que je pourrais dire de mal de ce film, il est bien filmé, il y a des comédiens, il joue bien, il se passe des scènes d'action et tout, mais c'est tellement un film classique, tellement un film vraiment très codifié et tout, etc., qu'il n'y avait pas d'âme, et donc j'ai pris beaucoup plus de plaisir à voir des films complètement barjots, comme les films là, avec Statham, la Crank, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, Hypertension, les films faits... Voilà, les mecs, dans les bonus de Hypertension, ils te montrent toutes les scènes où on voit la perche, où on voit l'autre caméra dans les reflets et tout, ils te disent voilà. Et c'est assumé, c'est-à-dire qu'ils disent oui, mais c'est pas ça l'important. Ils disent voilà, un film, les gens ils savent comment c'est fait un film. C'est pas un truc magique qui sort de nulle part, ils ont jamais vu de caméra et tout. Tout le monde sait comment c'est fait un film, et au final, ton but c'est de dire ok, vous savez comment c'est fait, vous savez que c'est fake, et pourtant on va vous faire rentrer dedans à travers d'autres trucs, à savoir les personnages et l'histoire et la mise en scène.
Ben, je l'ai pas vu, mais d'après ce que j'avais compris du speech du film de Gondry, Beacon, c'est exactement cet esprit là qui met en avant, et je trouve que on est un peu la fin, oui, C'est l'état d'esprit, c'est celui-là. Quoi. Ça, c'est un état d'esprit qui est positif.
Bon, tu fais Jack Black ou...
Tu es Mos Def. C'est ça,
donc, je suis Mos Def. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je veux dire, quand on est passionné par le passionné, à un moment donné, il y a forcément une... Ça rentre forcément en résonance. Et on n'est pas des passionnés de technique, de l'image. J'ai plus juste pour les techniques de l'image, quoi. Ou du sacro-saint, technique à 100%. Nous, on essaie de raconter une histoire, on essaie de raconter du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Voilà, quand le résultat...
On raconte l'histoire qu'on veut.
Et par contre, on raconte l'histoire
qu'on voilà, et ça, c'est
un la façon... De la façon chose qui n'a pas été, charcutée par, différentes personnes, différents organismes, ou différents préjugés.
Ouais, bah écoutez, cette liberté, c'est un truc très très rare dans l'audiovisuel en général. Et putain, il faut vraiment. Enfin, c'est une vraie chance qui a aussi sa malédiction.
Tu t'en vis pas, hein, je veux tu peux essayer, hein, tu peux essayer. Mais nous, c'est un aspect qu'on a accepté, un aspect d'entrée de jeu. On n'a jamais le côté. On a été ravis d'avoir du pognon pour pouvoir le reverser dans le projet et pouvoir s'acheter un peu de matériel, bouger quand il faut bouger, ce genre de choses-là. Quoi. Voilà. Nous, on ne touche pas personnellement, on ne touche rien dessus, mais c'est...
Pour la production, a besoin pour le tournage d'aller canner Ibiza pour tourner deux
secondes. Voilà, c'est ça.
Bon, c'était pas Ibiza.
Ce ne sera pas Ibiza, ce sera plutôt le Berry, mais... on a les moyens qu'on a.
Merci à vous deux, c'est super cool.
Merci à toi, c'était très cool.
Et vraiment, moi, je suis très blasé d'avoir vu les trois premiers épisodes de la saison 2, la saison 4, parce que là, maintenant, il va falloir que j'attende encore plus longtemps pour la
suite. Ah oui, je les envie rien.
Oh là là, s'il te plaît. Donc ça me manquait vraiment de voir de la Flanders m'a vraiment manqué pendant cette année, et putain, c'est plaisir.
C'est un aspect des productions amateurs, là, l'humain
qui influence beaucoup sur les plannings.
Énormément, parce que dès que t'enlèves le facteur humain, il reste plus grand-chose, les moyens ne sont pas là.
Et les moyens aussi, c'est les moyens de l'envie, et les moyens aussi, comment dire, des ressources humaines.
Oui, tout à fait. Voilà. Tu peux très bien avoir des problèmes à gérer, et puis il faut faire avec, quoi.
Ouais, et ça, les gens, je pense que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas l'argent qui impose les plannings, etc., tout vient de l'envie et de la bonne volonté de l'équipe. Et donc, tout peut basculer. Tout peut bien se passer dans le meilleur des mondes, comme tout peut basculer pour des raisons vraiment totalement private et des trucs qui n'ont pas de rapport avec la production audiovisuelle. Et ça peut vraiment tout faire basculer. Et ça, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ça reste un miracle que ce genre de projet continue sur le long terme.
Sur un épisode, il faut qu'on ait les 10 personnes qu'on ait par intermédiaire par épisode qui soient disponibles soit le même samedi, soit le même dimanche, et qu'en même temps, les lieux ou le lieu principalement où on tourne soient disponibles aussi, même date. Donc parfois ça se cadre bien, mais il y a des fois où c'est...
Sur un court métrage, imaginons tu fais un court métrage par an, tu fais ça, c'est pas sûr, t'arrives à retrouver le week-end. Le problème c'est que c'est un truc où t'as 20 épisodes sur l'année.
Combien d'heures on a fait l'année dernière ?
Je sais plus.
4h30 de programme ?
C'est improbable comme production. Pour un truc qui est pas du tout l'activité principale des gens pendant la semaine, c'est inhumain, c'est surhumain quoi.
C'est l'un des anneaux version longue quoi.
Voilà, donc...
Bon d'accord, on a fait la durée du Seigneur.
Alors Balrog est plus classe.
Non, Balrog, on a
notre,
fait
notre Moria. Moria c'est la cave, on ne descend pas, mais c'est ça.
Donc en tout cas moi j'espère vraiment que ça va continuer comme ça, ça va bien se terminer.
C'est bien parti, c'est cool,
ça fait plaisir. C'est très plaisir à entendre. Ok, merci les mecs.
Merci François.
Ciao.